invité l'assemblée à s'asseoir, s'il vous plaît. Lecture du psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses parvis, dans ses portes avec des louanges et dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen.
J'invite les diacres et les diaconesses à passer dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes. Nous chanterons le chant « Tinte pièce blanche ». Je vous invite à prier. Seigneur, je te remercie pour cette journée de sabbat qui nous permet de nous réunir pour t'adorer et te louer. Je te prie aussi pour les personnes qui n'ont pu se joindre à nous. Veuille les accompagner et les bénir, ainsi que toute l'assemblée ici présente en ce lieu. Permets que ces offrandes et dîmes soient utilisées à bon escient. Dieu Tout-Puissant, que ton esprit vienne dans toutes les églises et qu'il travaille en nous pour que souvienne une unité de bonté et d'amour. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.
Nous allons vous interpréter un chant. Emmanuel d'Exo.
Bonjour à tous. En tant qu'adventistes du septième jour, nous attendons le retour de Jésus, notre Sauveur, au parcours quelque peu étonnant. Il est né dans une étable pour finir sa vie sur une croix, humilié, et enfin ressuscité. Cette vie sur terre, en tant qu'homme, avait pourtant un grand but, sauver son peuple, ses enfants, car il est un Dieu d'amour. C'est pourquoi il nous a laissé un dernier message avant de partir. Des avertissements, des signes, pour nous guider et nous éclairer en attendant son retour. Car oui, Jésus revient bientôt. Et c'est ce thème qu'ont choisi aujourd'hui les compagnons pour ce culte liturgique.
Nous allons chanter le 249, les deux premiers couplets. « Pécheur, je voudrais te guérir ».
Bonjour à tous. Je voudrais vous parler ce matin des raisons de la venue de Jésus sur terre. Et pour cela, je vous demanderai de prendre votre Bible à Jean 3 au verset 7. Mais je suppose que tout le monde le connaît déjà. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a révélé son Fils sous la forme d'un homme, sous sa première forme, celle d'un bébé. En même temps que l'enfant Jésus s'éveille à sa vie terrestre, l'homme connaît progressivement le Messie. Le Messie qui est venu réconcilier l'homme avec le Père. Car il représentait le Tout-Puissant, vengeur, parfois jaloux, lointain puisque inaccessible, quoique bon et parfait. Par Jésus, il apparaît sous un nouveau jour, délaissant sa divinité, il partage les soucis et les joies de tout à chacun, doux et humble de cœur. Dieu est alors ami de l'homme. Et nous voyons que la manière dont Jésus nous a été envoyé est très douce et simple. Il ne s'est pas imposé. Il ne vient pas pour être servi, mais pour servir, à la différence des dieux de l'époque, à qui on apportait des offrandes. Le Fils de Dieu est l'offrande. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour servir, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Matthieu 20, verset 28. Ainsi, Jésus est la preuve d'amour de Dieu. Il est l'ambassadeur de son Père qui se manifeste à travers des miracles. Car l'homme a besoin de voir pour croire. Jésus le dit bien, si vous ne voyez des prodiges et des miracles, vous ne croyez point. Cependant, son caractère hors du commun, sa voix, son discours, son amour, son intelligence attirent et touchent le cœur et l'âme de l'homme. Par Jésus, nous obtenons la possibilité de devenir enfants de Dieu. Jésus est aussi venu accomplir la loi et la synthétiser par deux commandements d'amour que nous trouvons à Matthieu 22, au verset 32 à 40. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et par ces commandements, nous pouvons accéder à un homme nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Par Jésus, nous pouvons tout recommencer. Il nous demande simplement de lui faire confiance, de croire en lui, de lui obéir et d'accepter son amour. Même si cet amour demeure un mystère, il nous attirera vers lui.
Chantons « Pour toi, j'ai donné ma vie », c'est le discours de notre Sauveur. C'est le numéro 237 du recueil Hymne et Louange, je pense qu'il va être projeté.
Maintenant que Laura nous a expliqué pourquoi Jésus est venu, nous voulons maintenant vous parler de sa mort et de sa résurrection. Et pour cela, je vous invite à prendre vos Bibles et à lire avec moi Ésaïe 53, le verset 5. Mais il était blessé à cause de nos fautes. Il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris.
Jésus est mort pour nos péchés. Son châtiment sur la croix nous a donné la vie éternelle. Son acte d'amour nous guérit par ses meurtrissures. Dieu a donné son Fils unique pour nous. Jésus n'a pas faibli devant l'ampleur de la tâche qu'il attendait. Il aurait pu demander de l'aide à Dieu ou aux anges, mais nous aime tant qu'il s'est sacrifié pour nous. C'est par cet acte que lorsque nous nous baptisons, l'homme pécheur que nous sommes meurt et renaît, lavé de ses péchés en sortant de l'eau.
Maintenant, je vous invite à lire Acte 1, les versets 10 à 11. Mais pendant que Jésus s'éloigne, les apôtres continuent à regarder le ciel. Tout à coup, deux hommes en vêtements blancs sont à côté d'eux. Ils disent aux apôtres, « Hommes de Galilée, vous restez là à regarder le ciel. Pourquoi donc ? Jésus vous a quitté pour aller vers le ciel et reviendra de la même façon que vous l'avez vu aller vers le ciel. »
La résurrection du Christ représente notre sortie des eaux. Nous revivons en Jésus-Christ, nous vivons par lui, pour lui et par son sacrifice. Chaque jour est un combat pour honorer le sacrifice qu'il nous a fait. Il est vrai que ce combat sur la croix ne peut être comparé à aucun autre.
Dans le chant de sa résurrection, Christ est ressuscité.
Annonçons partout sa bonne nouvelle. Nous allons chanter dans le numéro 212 des Hymnes et Louanges.
L'ange prit la parole et dit, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il vous l'avait dit. Voyez le lieu où il était couché. Et allez dire promptement aux disciples qu'il est ressuscité des morts. Voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous le dis.
Nous avons vu avec les méditations précédentes pourquoi Jésus est venu et sa mort et sa résurrection. Maintenant, nous allons voir son dernier message. Dieu nous a donné une mission, comme il est dit dans Matthieu 28, versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Mais comment pourrais-je mener à bien cette mission si, comme dans Apocalypse 3, verset 20, nous n'avons pas Jésus dans notre cœur? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai avec lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Mais comme chaque mission a du bon et du négatif, il nous promet aussi d'être là avec nous tous les jours, comme dans l'histoire de l'homme qui rêve. C'est un homme, il est âgé, très âgé, et cette nuit-là, il rêve. Et dans son rêve, il est sur une plage avec Jésus. Et il voit tous les moments de sa vie qui défilent avec Jésus. Et tout à la fin, quand il arrive à la nuit en cours, il se retourne vers Jésus et lui pose une question. Jésus, pourquoi dans les moments difficiles, il n'y avait qu'une trace de pas? C'est parce que, Jésus lui répond, c'est parce que dans ces moments-là, je te portais. Je vous invite à prendre Matthieu 25, versets 1 à 13. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages en prirent avec de l'huile dans le vase. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour vous et pour nous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient et en achetaient, l'époux arriva, celle qui était prête entra avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il leur répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour. » Dieu nous invite dans ce texte à nous préparer, à nous repentir, à prêcher autour de nous sa parole pour que la moisson soit le plus grande possible. Donc mes frères, préparons-nous, mes frères et sœurs, excusez-moi. Préparons-nous, repentons-nous, faites de toutes les nations des disciples et veillons son arrivée, car nous ne savons ni le jour ni l'heure.
Comme il nous a été dit, veillons en gardant nos lampes allumées, tenons nos lampes prêtes.
Yeah.
que devant l'agneau, nous allons chanter ce chant, le numéro 239, dans l'hymne et louange.
Bonjour chers frères et sœurs, je vous invite à prendre Apocalypse 20, versets 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui y était assis. Devant sa face s'enfuirent la terre et le ciel, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre furent ouverts, qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. La mer donna les morts qui s'y trouvaient, la mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient, et ils furent jugés, chacun selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu.
Lors du jugement, tout être vivant et mort seront appelés au son de la trompette. Nous serons jugés par rapport à nos actes, nos connaissances. Personne ne comparaîtra devant le tribunal, car Jésus intercède pour nous. Pendant 1000 ans, les justes seront avec Dieu, au ciel. Après 6000 ans, il y aura un autre jugement pour Satan et ses anges déchus qui seront détruits à jamais. Ce qu'il faut retenir, c'est que le jugement de Dieu est juste, miséricordieux et amour.
Tout le monde sera jugé, tous ceux qui ont vécu sur cette terre. Dieu n'épargnera personne. Voulez-vous vraiment aller au ciel ? Moi, oui. Il faut faire attention à nos actes et prendre en compte nos connaissances sur la parole de Dieu. Tout ce qu'on a fait maintenant sera ensuite jugé. Ne rejetez pas l'appel de Dieu. On est jugé pendant toute notre vie. Sachons être des personnes exemplaires. Soyez le messager de notre Seigneur. Ne pensez-vous pas que ce message à propos de l'existence et du retour de Jésus en touchera quelques-uns ? Ne voyez pas le jugement comme quelque chose de mauvais, car ce jugement sera la fin d'un monde malade et de perdition.
Entends-tu ? Jésus t'appelle. Jésus nous appelle chacun. et une demande à lui ouvrir son cœur.
Bientôt revenir, nous allons le chanter numéro 112 de Hymne aux Louanges.
Thank you. va bientôt revenir. Mais nous ne savons pas quand. Cependant, Dieu, dans sa grande bonté, nous a donné à travers sa parole des signes nous permettant de nous repérer et de nous préparer à sa venue. Ouvrez avec moi vos Bibles dans Matthieu 24, versets 23 à 29.
Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées.
Alors, d'après ce passage, on a une description des signes naturels qui vont se produire avant le retour du Christ. Donc, on peut penser que ce sont des tremblements de terre qui ravageront la terre, des chutes de météorites. D'autres précisions nous sont également données sur ces phénomènes, comme on peut le voir dans le livre des Actes, au chapitre 2 et au verset 20. Donc, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique. Alors, tous ces signes naturels se sont déjà produits, donc on va le voir. Donc, le 1er novembre 1755, notre planète Terre a connu un grand tremblement de terre, le plus grand qu'elle n'avait jamais connu. Donc, ce phénomène se produit à Lisbonne. Et il eut un impact considérable, aussi bien au niveau catastrophique qu'au niveau de la pensée. Il détruisit de nombreuses habitations en quelques secondes et fit également des milliers de morts. Mais surtout, beaucoup de gens reconnurent à travers ce cataclysme un des signes annonciateurs du retour du Christ. Également, le jour du 19 mai 1780, fut un jour inoubliable pour les habitants du continent nord-américain. Une extraordinaire obscurité régna toute la journée. Et à minuit, la lune apparut, mais sous un aspect de sang. Donc à travers ces deux phénomènes, les hommes reconnurent également des signes annonciateurs du retour du Christ. On peut continuer également ainsi. La chute d'étoiles eut lieu en 1883. Donc comme on le voit, ces signes naturels se sont déjà produits et montre bien que le retour du Christ est proche et qu'il faut se préparer à sa venue. Il y a également des signes dans le monde religieux. Daniel, dans son livre, au chapitre 12 et verset 4, nous dit « Toi, Daniel, tiens ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup alors le liront et la connaissance augmentera. » Il y a également une grande proclamation de l'Évangile. Comme on peut le voir maintenant, la Bible est vendue à bas prix et elle est énormément diffusée. La religion connaîtra également un déclin. Donc les principes bibliques vont être délaissés au profit des valeurs du monde, comme l'amour de soi, les biens matériels.
Il y aura également un moment où les chrétiens ne pourront plus ni acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête sur soi. On trouve cela dans Apocalypse 13 au verset 17. Juste avant le retour de Christ, de faux prophètes apparaîtront et se feront passer pour le Messie. Ils feront des miracles et auront un discours très proche de celui de Jésus. Ainsi, il sera facile de se laisser abuser par leur pouvoir. Ceci nous montre jusqu'à quelles extrémités Satan est prêt à aller pour entraîner l'homme dans sa chute. Il le corrompra, le fera devenir plus puissant afin qu'il séduise ses semblables. Il y a pourtant une bonne nouvelle. Si nous sommes avec Dieu, nous resterons fermes, car il nous protégera et nous ouvrira les yeux. C'est pourquoi nous devons attentivement étudier la parole de Dieu, car c'est uniquement par une profonde connaissance de la Bible et de Dieu que nous pourrons déjouer les ruses de Satan. Les faux prophètes nous amènent à une seconde caractéristique importante du retour de Jésus. Lorsqu'il reviendra, chaque personne sur terre pourra le voir. Ainsi, il ne faudra pas croire les amis ou les chaînes de télévision qui vous annonceront la soi-disant bonne nouvelle de son retour. Le seul moyen de savoir que Jésus est revenu, c'est de l'avoir vu. Ces signes sont les tout derniers avant le retour de Jésus, mais nous sommes actuellement dans une période qui a été aussi annoncée par la Bible. Les changements profonds de la société, la libération des mœurs, La généralisation de la violence sont autant de signaux qui annoncent l'imminence du retour de Christ. En effet, la vie est de plus en plus chère, de plus en plus difficile. Nous sommes menacés par un nombre de dangers en constante augmentation. Et seul le retour de Dieu pourra mettre fin à l'aggravation de la situation. Notre Seigneur a balisé la route. Les signaux sont là, à nous maintenant d'être attentifs. Certains événements tendent à montrer que le monde arrive à sa fin. Nous devons donc nous préparer, que dis-je, nous tenir prêts pour le retour de Christ.
Quel beau jour ou devant ta face, tous les rachetés apparaîtront. Chantons les deux premières strophes. Chanter ensuite le 112, la trompette a retenti.
Oh, Bonjour. Donc j'imagine que vous étiez très attentif aux méditations qui sont passées juste avant. Et donc j'aimerais savoir qu'après tout ce que vous avez entendu, êtes-vous certain que Dieu vous aime ?
Oui !
Bien, au moins tout le monde écoute. Êtes-vous sûr qu'il a envoyé son fils pour vous sauver ?
Oui !
C'est bien. Moi en tout cas j'en suis persuadé. Nous pouvons donc penser à son retour, et bien tout proche. Prenons par exemple la venue dans un état d'un personnage très important. Prenons par exemple dans notre République, à l'Élysée, donc garde républicaine, on va le chercher à l'aéroport, tapis rouge, grande musique, fanfare, etc. Plus l'hôte est important, plus les moyens déployés le sont également. Pensez donc à ce moment-là avec Dieu. Imaginez donc que c'est l'homme le plus important pour la Terre, car c'est lui qui a sauvé, qui l'a créé, bien sûr, évidemment. Et donc le moment sera donc beaucoup plus important que tout ce que nous avons pu vivre aujourd'hui. Donc Matthieu le décrit dans Matthieu 24, verset 30, que je vous invite à prendre. Alors, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Alors, tous les peuples de la terre se lamenteront, ils verront le Fils de l'homme arriver sur les nuages du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. C'est donc l'inverse de sa première venue, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Il est venu simple, humble, dans une étable, comme une personne pauvre et démunie. Mais sa deuxième sera toute en gloire, nous pouvons en être persuadés. Nous ne pouvons qu'espérer le voir le plus vite possible. Mais en attendant, nous avons aussi notre propre tâche. Nous devons nous préparer. Nous préparer à accueillir Jésus dans sa puissance, car elle sera visible par tous, les méchants tout autant que ceux qui seront sauvés. Nous n'accueillerons pas seulement Jésus, mais également la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem parmi nous. Jean l'annonce dans Apocalypse 21, versets 1 à 3. Apocalypse 21, versets 1 à 3. Alors, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et alors je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel, envoyée par Dieu, prête comme une épouse qui s'est faite belle pour aller à la rencontre de son mari. J'entendis une voix forte qui venait du trône et disait, « Maintenant, la demeure de Dieu est parmi les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux et il sera leur Dieu. » Ce dernier texte nous apprend la chose essentielle à savoir. Quand il reviendra, il n'y aura plus jamais de séparation entre Dieu et les hommes. Ce sera un moment de paix et de joie. Dieu sera au milieu de nous. Nous pourrons lui parler directement, lui poser toutes les questions que nous voulons, savoir tout ce que nous voulons. Cette image peut nous paraître bien loin, malheureusement, avec les problèmes que nous avons sur Terre et les malheurs que nous avons. Mais ce jour peut arriver très vite. La société nous montre tous les jours une terre qui souffre et donc une fin qui se rapproche. Or, c'est par la foi que nous croyons à ce magnifique tableau du glorieux retour de Jésus. Gardons cette foi ferme, frères et sœurs, et vivons tous les jours de notre vie comme si nous accueillions Jésus avec nous dans toute sa gloire.
Qui sont ces gens au radieux visage ? Le numéro 410 des Émiles Orange.
Oh. vous invite à incliner la tête pour prier ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer, te rendre grâce ce matin. Merci parce que, au travers de ces jeunes, tu nous as parlé, tu nous as réconfortés. Tu as permis de nous remettre à tes pieds, comme Marie le faisait, de reprendre confiance en toi. Merci de nous rappeler que tu es allé nous préparer de place pour nous prendre avec toi, afin que là où tu es, nous y soyons aussi. Merci Seigneur pour tous ces jeunes. Merci pour ce mois de jeunesse. Merci parce que nous voyons combien ils veulent également témoigner de cette rencontre qu'ils font ou qu'ils feront d'une manière encore plus forte avec toi chaque jour. Aide-nous, les plus anciens, à pouvoir les soutenir, les aider, les appuyer, les réconforter. Aide-nous tous ensemble à former une famille, une église qui rayonne et qui, par la même, annonce cet amour incommensurable de ton prochain retour. Seigneur notre Dieu, que ton esprit nous saisisse et nous conduise, soit particulièrement avec tous ceux qui souffrent, qui ne sont pas là ce matin, mais qui sont en français avec nous. Bénis-nous, Seigneur, et que ton esprit nous redonne cet amour et cette paix que toi seul peux nous donner. Au nom de Jésus. Amen. Amen.